allons nous perdre dans Venise. Du drame, de la tragédie, de la tragicomédie. La vie des palais vénitiens, atmosphère casanovienne. Deux Français, deux académiciens français à Venise pour France Culture à la fin des années 60. René Huyghe, philosophe de l'art qui présidait la commission internationale d'experts de l'UNESCO pour la sauvegarde de Venise, et Marcel Brion, historien d'art. Au cours des émissions de la série Heure vénitienne, nous avons déjà pu suivre ces deux guides pour examiner, contempler, découvrir Venise. Torcello, Rialto, la Piazza San Marco, le Palais Ducal, la Fenice, l'architecture, la peinture, la musique. Qui trouvait une certaine ressemblance entre Venise et la Bretagne? Réponse dans l'itinéraire qui vient cette nuit, itinéraire entre Murano et le Café Florian. Première diffusion sur France Culture le 3 octobre 1969.
Oh Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive.
Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrées à Venise par René Huyghe et Marcel Brion de l'Académie française. Aujourd'hui, entre Murano et le Café Florian, avec la participation de Diego Valeri, Ludovico De Luigi et des maîtres verriers Barovière et Tozzo.
Dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul, assis sur la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui, par groupes, navires et chaloupes, pareils à des hérons couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croisent dans la brume en léger tourbillon leur pavillon. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, demi-voilé. Ainsi la dame abbesse de Sainte-Croix abaisse sa cape au vaste pli sur son surplis. Et les palais antiques et les graves portiques et les blancs escaliers des chevaliers, et les ponts et les rues et les mornes statues et le golfe mouvant qui tremble au vent. Tout se tait, fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent au créneau des arsenaux. Ah, maintenant plus d'une attend au clair de lune quelques jeunes muguets l'oreille au guet. Pour le bal qu'on prépare, plus d'une qui se pare met devant son miroir le masque noir. Sur sa couche embaumée, la Vanina pâmée presse encore son amant en s'endormant. Et Narcisa la folle au fond de sa gondole s'oublie en un festin jusqu'au matin. Et qui dans l'Italie n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours? Laissons la vieille horloge au palais du vieux doge lui compter de ses nuits les longs ennuis. Comptons plutôt, ma belle, sur ta bouche rebelle tant de baisers donnés ou pardonnés. Comptons plutôt les charmes, comptons les douces larmes qu'à nos yeux a coûté la volupté. Alfred de Musset.
On ne peut pas parler de tous les palais vénitiens, chacun a son histoire, chacun a son passé, ses fantômes. Nous allons en prendre un, non pas au hasard, Nous allons choisir celui où a vécu Byron. Mais il n'y a pas que Byron qui l'illustre de ses souvenirs. Ce palais, c'est le palais Mocenigo, ou plus exactement le groupe des palais Mocenigo, qui se trouve sur le Grand Canal. Il y a là deux palais qu'on appelle les palais anciens, et puis ils ont été réunis par deux autres palais un peu plus bas, et qui sont la Casa Nuova. D'ailleurs, ce nom de Casa Nuova nous évoque un voisin qui est né tout près de ce palais, dans une des petites rues qui sont derrière, Casanova. Casanova était du quartier, et peut-être même dans des possessions de l'ancienne famille Mocenigo, qui à un moment possédait presque toutes les maisons des environs. Nous entendons sur le perron la rumeur des flots, et ce perron d'ailleurs est lui-même plein de souvenirs. Lorsque Byron a loué ce palais en 1818, il avait déjà eu des aventures amoureuses, on ne va pas les raconter toutes. Il a mené ici une vie assez aventureuse et même, on pourrait dire, un peu dissolue. Il y avait eu d'abord la boulangère de la Frazzeria, et puis quand il est venu ici, quand il allait galoper au long du Lido, quand il revenait, quand il allait même parfois au Lido à la nage, ce qui est une performance, il rencontrait au Lido une autre belle vénitienne que l'on appelait la Fornarina, parce qu'elle était la femme d'un boulanger qui avait 22 ans aussi. Elle s'appelait de son vrai nom Margarita Cogni. Et elle était complètement illettrée, mais une très belle femme. Et Byron, sans trop d'illusions, dans une de ses lettres, la dépeint même un bel animal qui a certaines qualités sur lesquelles il est inutile de s'étendre. Eh bien, nous n'en dirons pas plus nous-mêmes, mais elle était assez vulgaire, criailleuse, et les scènes qu'elle faisait à Byron ici, avec bris de vitres, étaient devenues gênantes. Il y a eu des ruptures, il l'a mise à la porte, elle est revenue, elle a voulu se tuer. Tout cela est extrêmement dramatique et c'était une passionnaria en un certain sens. Un soir, Byron était allé au Lido et la gondole ne revenait pas, il y avait du brouillard. Et la Fornarina est venue sur ces marches où nous sommes, brune, échevelée, et comme il pleuvait, ses mèches s'étaient collées sur son visage. Et elle hurlait sa douleur déjà sur ses marches lorsque du brouillard sortit tout d'un coup la gondole de Byron. Et Byron, au milieu des fusions que nous pouvons imaginer, débarqua sur ces mêmes marches où nous sommes. Et il avait ici d'ailleurs une ménagerie, il y avait un ours, il y avait des singes. Byron s'était installé, il avait en même temps des grands salons de réception. Ici, dans ce palais, il y a eu une esquisse du paradis de Tintoret il y a encore quelques années. Et il y a eu maintes peintures connues. Il y a eu des sculptures, il y a toujours d'ailleurs des décors de Sansovino. Puisque nous sommes sur ce perron où débarquèrent les hôtes, car on arrive du Grand Canal, la porte de terre n'est qu'une porte de service en quelque sorte. L'entrée noble est toujours sur le Grand Canal, donnant sur l'immense vestibule sombre. Évoquons aussi les autres hôtes, cela nous donnera une idée de ce qu'était la vie de ces palais vénitiens. Il y a eu, en 1574, il y a eu Emmanuel Filiberto, prince de Savoie, qui était le grand vainqueur des batailles de Mühlberg et de Saint-Quentin, qui fut un hôte des Mocenigo. Quelques années plus tard, c'était un intellectuel, le grand Giordano Bruno, qui peut-être, les spécialistes pourraient dire si je me trompe, mais qui peut-être fut le premier à se préoccuper de l'idée de l'infini et de faire une théorie de l'infini, profond penseur, qui fut recueilli par le Mocenigo de l'époque, car celui-ci espérait, et nous revoilà à nouveau dans une atmosphère casanovienne, celui-ci espérait qu'un si savant cerveau devait posséder les secrets de la magie. Et il essaya de tirer de l'infortuné Giordano Bruno les secrets qui lui permettraient peut-être, on ne sait, de fabriquer de l'or. Et le pauvre Bruno, qui n'était que philosophe, était bien empêché de lui apporter cette denrée rare pour lui. Si bien qu'irrité à la fin, il fut livré par son hôte au Saint-Office. Et voilà une histoire tragique. Il y en a d'autres, laquelle allons-nous choisir? Au début du XVIIe, il y avait dans ce palais Anne de Shrewsbury, la femme de Lord Arundel, le célèbre Lord Arundel. Elle était fort jolie et un noble Antonio Foscarini lui rendit ici visite. Ses visites devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus prolongées. Et qu'advint-il ? Il advint que le Conseil des Dix s'émut, car le Foscarini, comme fonctionnaire de l'État, possédait certains secrets, et on craignait toujours que ces secrets ne parvinssent aux oreilles ennemies. Et les murs du Mocenigo avaient des oreilles anglaises à cette époque. Le pauvre Foscarini fut suspecté de trahison, arrêté et exécuté. Voilà toujours la Venise rose et noire, et sur ces quelques marches, nous pouvons évoquer aussi ce bijou rose et noir qu'est Venise tout entière, faite de joie et faite de crimes et de morts.